voix est libre.
Je pense que toujours, quand il y a une distance, une divergence entre les positions que l'ambassadeur prit et ce que le gouvernement dit, c'est un problème.
Alors, c'était Mme Freeland, la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui dit grosso modo, quand l'ambassadeur pense pas comme le PM, c'est un problème. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le PM a mis à la porte notre ambassadeur en Chine. Ça s'est passé vendredi soir. Mon cher Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Ça, c'est un bon coup ou un mauvais coup?
C'est un mauvais coup. L'ensemble de l'œuvre est un mauvais coup. C'est pas tant le congédiement de McCallum. C'est l'ensemble de l'œuvre. On dirait que tout dans ce dossier-là, qui est pourtant un dossier crucial, il ne faut surtout pas le sous-estimer comme possible conséquence, ce dossier-là.
Ça, c'est les relations avec la Chine.
Les relations entre le Canada et la Chine.
Ouais.
D'abord, il y a d'abord l'extradition, ou enfin, l'arrestation de Madame, la dame de Huawei.
Ouais.
Le Canada a semblé être complètement étonné de voir les réactions que cela a provoquées, ne paraissait pas du tout préparé à ce qui allait se passer. La Chine a pris des Canadiens ni plus ni moins en otage.
Ouais.
Le ton a monté. Et la semaine dernière, John McCallum, qui est un ancien ministre du gouvernement de Jean Chrétien pendant de nombreuses années...
Et un ministre du premier conseil des ministres de Justin Trudeau.
Aussi, également. Hein? Et il a été nommé ambassadeur en Chine. Et son épouse est chinoise, ses enfants sont mariés avec des Chinois. C'est un gars qui est presque chinois lui-même, j'exagère à peine. Et là, il est allé dire deux stupidités dans la même semaine. La première, c'est, vous savez, madame, j'oublie toujours son nom, Wang, là, je crois qu'elle s'appelle.
Oui, son nom, c'est Meng Wanzhou.
Ouais, bon,
Meng,
voilà,
madame, on va dire madame Meng.
Madame Meng, là,
okay, madame Meng.
Elle a de très bons arguments à faire valoir devant un tribunal.
C'est ce qu'il dit.
Pour empêcher son extradition.
C'est
ah,
ça. Ouais.
OK, coudonc. De quoi il se mêle, lui, c'est l'exécutif, ça, à ma connaissance, la diplomatie canadienne. Là, il finit par s'excuser, puis tout ça. Puis vendredi, il en remet une couche.
Ouais.
Là, elle était pire, la deuxième couche. La deuxième couche, c'est, il dit, ce serait quasiment un cadeau du ciel si les États-Unis décidaient de pas aller de l'avant avec le processus d'extradition. Là, les Chinois, d'abord Trudeau, le sac à la porte. Réaction des Chinois, parce qu'il y a quelqu'un au sein de son gouvernement qui est favorable un peu, ou enfin positif face à nous, et le sac à la porte. De l'autre côté, t'as les Américains qui disent... De quoi est-ce qu'il te mêle? De quoi il se mêle, votre gars, là, McCallum? Qu'est-ce qu'il prend, lui, de venir dire que ce serait un cadeau du ciel si nous, les Américains, on n'allait pas de l'avant avec les procédures
d'extradition? Il se met tout le monde à dos.
Là, il se met absolument tout le monde à dos. Les Américains à dos, la Chine, évidemment, qui a très, très mal réagi à ce congédiement-là. Ils y voient, eux, un autre exemple du fait que le Canada est devenu un pays carrément hostile. Et souviens-toi, Bernard, qu'il y a 2 ans, Justin Trudeau était allé en Chine.
Ouais.
Et là, il allait là pour entreprendre ou lancer une négociation de libre-échange.
Ben oui.
Il est arrivé là, puis sur la place publique, il a dit, et en privé aussi, puis nous autres, on veut un accord de libre-échange qui va prendre en compte les droits des travailleurs, les droits des femmes, les droits de ceci, les droits environnementaux. Les Chinois, la nouvelle naissante superpuissance, ont dit à Trudeau, mais tu te prends pour qui, là? De venir nous voir, nous, un pays d'1,4 milliard d'habitants, devenu superpuissance parmi les superpuissances. Ils sont de plus en plus la superpuissance. Tu te prends pour qui de venir nous faire la morale? Mmh. Alors, le lendemain, il se présente à une réunion. La réunion était annulée, il n'y avait même pas dit. Il devait faire un point de presse en compagnie de quelqu'un du gouvernement chinois. Personne ne s'est présenté du gouvernement chinois. Ils l'ont traité comme le dernier venu, comme une espèce de caillou dans le soulier. Et là, Trudeau avait pourtant fait de son rapprochement avec la Chine une chose extrêmement importante
Pierre
dans sa politique
Angulaire,
étrangère.
Pierre Angulaire, on pourrait dire.
Oui, Pierre Angulaire, ouais, tout à fait. Ouais. Non seulement ça, mais avant d'être élu, tu te souviens peut-être qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait des autres pays du monde dans une entrevue.
Oh,
puis il avait
ça,
dit,
c'était quelque chose.
Il avait dit qu'il pouvait pas s'empêcher d'avoir une pointe d'admiration pour la Chine qui, grâce à son système ultra-centralisé, pouvait influer sur le développement de l'économie.
Quelle gaffe, hein?
Une gaffe, mais monstrueuse,
quelle
comprends-tu?
Gaffe.
Et là, on dirait que tout ça est un fouillis. Et là, il y a des conséquences à ça. Le Canada, la diplomatie vise d'abord et avant tout à défendre nos nos intérêts. Ouais. Très étroitement, ouais, nos intérêts.
Pas une conception morale,
non,
du monde.
Pas,
hein,
du tout.
On s'entend, hein?
Et c'est normalement entre les mains de professionnels, ce qui n'était pas le cas de McCarlin.
Ah ben voilà. Puis tu as vu d'ailleurs, c'est qui ont nommé à sa place de façon intérimaire. On verra, ouais, s'il est confirmé, mais c'est un diplomate de carrière,
absolument,
un dénommé Nico,
ouais,
hein, qui a été nommé comme ambassadeur du Canada à Pékin.
Sur
on
une
verra
base
si.
Oui,
oui,
sur
une
si,
base
les, si les si Chinois les... l'approuvent, parce,
ouais,
que,
ouais,
l'accréditation, ça demande l'approbation du pays hôte.
Exact.
Alors, là, on est dans une situation où notre intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir des relations au moins normales avec la Chine. On n'a pas besoin de ce genre d'agressivité à notre égard. Il en va de notre commerce. C'est le plus grand marché au monde. C'est le plus grand marché au monde et nous sommes un pays qui ne vit essentiellement que par les exportations.
Et on se cherche, il faut le dire, là, avec ce qui se passe au Sud, avec le protectionnisme américain, on se cherche d'autres marchés,
oui,
pour ne plus dépendre autant du marché américain.
Exactement.
Et là, on est dans le trouble avec, tu le dis, le marché qui compte le plus grand nombre de consommateurs.
Absolument, et qui est en croissance. On dit, écoute, c'est hallucinant.
C'est juste 6%.
Oui, c'est ça. Ils devaient avoir une croissance de 6,7, ils sont à 6,2. Ça va pas bien, l'économie,
oui,
en Chine.
Oui.
On en rêve ici.
Ben oui.
Je me souviens pas d'avoir jamais entendu dire que le Canada avait connu un taux de croissance de 6%.
Peut-être dans
Je
la pré-guerre.
Je pense
là,
de
peut-être...
me souvenir un 4,5, ouais, ou quelque chose,
ouais,
comme ça.
Ouais.
5 étant vu comme un idéal, les Chinois ont eu des taux de croissance avoisinant 10%
ben,
pendant longtemps.
Ils ont dépassé.
Alors, nous, là, on a tout à perdre dans un jeu, on dirait, qui est mené par des amateurs. Comment ça se fait qu'il a été fait ces gaffes-là il y a 2 ans en Chine, puis de se faire fermer à porte au nez, puis les Chinois qui disent, écoute, si tu veux venir nous imposer tes codes moraux, nous autres-là, on n'a pas besoin de te voir, on n'a pas besoin de toi. Et
non,
on a aussi l'impression que le Canada est devenu le punching bag dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
C'est sûr que c'est ça.
Mais comment on s'est mis dans ça?
Puis les Chinois, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, les Chinois, ils n'hésitent pas à nous verger dessus parce qu'on est petit.
Oui, oui.
On est petit, mais on est à côté du gros.
Oui, puis ils donnent une leçon au reste des pays occidentaux qui veulent leur tenir tête.
Ben, c'est évident. Bon,
ils disent votre démocratie puis vos bebelles, on veut
Arrêtez
plus en entendre
parler. Arrêtez de nous écœurer, regardez ce qu'on fait avec Trudeau.
Ouais,
hein,
ouais.
Le grand peddler de l'ordre moral nouveau, ouais, le post-national.
On l'a envoyé comme une pichinotte, là, tiens, bye-bye, M. Trudeau. Alors, je trouve que cette opération diplomatique est une des plus ratées que j'ai jamais vues de ma vie par le Canada.
Sais-tu quoi? Elle est appelée à perdurer, parce que demain, la madame, là, madame Wang, Wang Zhu, elle s'en va devant le tribunal.
Ouais.
Puis après-demain, les Américains vont probablement déposer formellement leur demande d'extradition.
Ouais.
Et là,
ouais,
ça se retrouve devant les tribunaux. Puis après ça, ça s'en va sur le bureau du ministre de la Justice.
Oui.
Puis si le ministre de la Justice est d'accord avec l'extradition, elle peut en appeler devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, enfin la Cour d'appel
de la Colombie-Britannique. C'est la Cour suprême, la Cour suprême là-bas.
Oui, mais il y a une Cour d'appel après le Cour suprême.
Oui.
Et là, elle pourra en appeler là. Fait qu'on en a pour des mois, mon ami, là.
Des années.
Ben
souviens-toi que Vito Rizzuto, quand il a été extradé en vertu des mêmes traités, je pense que ça a duré 3 ans.
Ben là, si tu me dis que c'est des années, ça veut dire qu'on se rend à l'élection avec un problème chinois.
Un très, très gros problème. Parce que les Chinois, l'argument tenu par le Canada, c'est nous opérons selon le règne de la loi. Nous sommes une société de droit.
La règle de droit.
Ouais. Alors nous... On ne fait que respecter nos traités, puis on respecte notre système. Mais là, ils disent, puis ton gars, McCallum, lui, il était pas dans le coup. Là,
oui,
les Chinois disent, c'est quoi, là?
Parce que McCallum a dit...
Les
Américains, il y a une part de politique dans leur demande d'extradition.
Oui, complètement.
Fait que là, les Chinois disent, en ouin... Donc, c'est pas juste la règle de droit, c'est aussi la politique américaine.
Exactement.
Hein?
Alors...
Situation
très, très fâcheuse pour le Canada. Et le mot fâcheux est probablement un euphémisme. C'est à la limite de la catastrophe diplomatique, cette affaire-là.
C'est surtout qu'après son voyage absolument catastrophique en Inde...
Puis en Chine, avant ça, on se retrouve coupé des deux marchés les plus forts en croissance à l'heure actuelle.
Il a arraché un accord avec Trump. Une chance qu'il a arraché un accord sur le libre-échange avec Trump. Je te le dis, Luc, sinon, là... Écoute, sa réélection n'est pas faite à Trudeau, hein? Il est en avance, là, mais c'est pas fait, là.
Je m'éloigne de la Chine, mais il s'en va à Québec la semaine dernière, puis il leur annonce que toutes leurs demandes, c'est non. Non pour la question de l'immigration, non pour la question de construire un autre bateau d'approvisionnement
non sur le troisième lien,
puis le tramway, on verra. écoute, je sais pas où il s'en va avec son élection, là, lui, je sais pas s'il y a un plan secret qu'on ne connaît pas, mais là, une guerre commerciale avec la Chine, une guerre diplomatico-commerciale, ça s'annonce pas bien. Sa force vient du fait que Scheer, à mon avis, n'est pas très fort.
Non.
Je l'ai écouté prononcer deux discours la semaine dernière. Je te jure que c'est pas impressionnant.
Non, c'est ça. C'est ça. Il est fort. Trudeau est fort de la faiblesse de ses adversaires.
Absolument.
Mais Scheer peut-il se renforcer?
Je le sais pas.
On le sait pas.
Ils sont très actifs sur le terrain,
ouais,
les conservateurs.
Ouais, ouais, ouais,
mais
ouais.
Le chef n'inspire pas beaucoup.
On s'entend là-dessus.
Ni du bien, ni du mal. Là, il n'inspire rien du tout. Il nous laisse indifférents, ce gars-là.
Voilà, voilà, exactement. On va s'arrêter parce qu'au retour, ça va être ta bonne nouvelle.
Oui.
Hein, ça va être ta bonne nouvelle dans un instant, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute.
Drainville PM. La voie est libre.
Les problématiques sont connues. Elles méritent une intervention ministérielle rapide pour faire en sorte qu'on ait, au niveau des VAC, une attitude correcte, un changement de culture, un changement au niveau de l'administration des plaintes. Et le problème, c'est pas la jurisprudence, c'est pas les jugements de cour, c'est pas la loi. C'est le fonctionnement d'IVAC et c'est là qu'il faut intervenir de façon urgente.
Alors, l'IVAC, c'est le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Celui que vous entendiez, c'est l'avocat Marc Bellemare, donc en entrevue avec Paul Arcand ce matin. On avait reçu Marc Bellemare vendredi passé à l'émission, vous vous en rappelez, puis il se plaignait du fait que Mme Tadbi et ses deux enfants n'étaient pas reconnus comme victimes alors qu'elle avait perdu son mari dans l'attentat contre la grande mosquée de Québec. Et là, bonne nouvelle, Luc, c'est ça? Bonne
oui,
nouvelle.
Excellente nouvelle, d'ailleurs. Je crois comprendre par l'entrevue qu'on a fait, nous, à Québec, avec M. Bellemare, que c'est en partie à cause de son passage à l'émission ici que Mme Lebel se serait réveillée.
Oui, parce qu'on l'a interpellée pas mal. Quand elle est venue à l'entrevue, là, on a mis un petit peu de pression, effectivement.
Ouais. Il était 16h44 pour reprendre ses paroles à Marc Bellemare. Dans
quand il y a eu l'appel?
Quand ils ont eu un courriel.
Ah ben là, je te dirais, deux heures après l'entrevue que j'ai faite avec lui.
Ben, c'est pas mal serré. Hein?
Ben, c'est bon, ça.
C'est excellent. Là, on met félicitations parce que, je veux dire, ce dossier-là, c'est Mme Tabti et ses deux enfants de 5 ans et 13 ans. Le mari de madame, le père des enfants, est décédé et une des victimes de la tuerie de la mosquée à Québec.
Ouais.
Et on lui refusait d'avoir droit aux indemnisations prévues pour les victimes d'actes criminels parce qu'elle n'était pas sur les lieux lorsque l'acte a été commis.
Tu te dis...
Mais voyons donc. Et puis là, cette femme-là, elle a sincèrement souffert. Elle avait une garderie. Elle l'a fermé pendant 9 mois de temps, elle n'était plus capable de travailler. Ses enfants vivaient dans la terreur. Elle a demandé de l'aide un peu partout. Elle a commencé à se remettre sur pied tranquillement. Mais Marc Bellemare faisait valoir que la loi qui a créé l'IVAC ne définit pas la victime d'actes criminels comme quelqu'un qui est sur les lieux.
Exact.
Et là, on s'est pas rendu compte en grattant ça un peu, Bernard, que l'IVAC, ça coûte beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu il y a des années quand ça a été créé. Et que là, au fond, il y a un système administratif de fonctionnaires qui fait qu'on essaye de serrer la vis, tu comprends? Alors là, on est c'est demain, je crois, la commémoration.
C'est demain, c'est ce que je suis en train de vérifier, mais si je ne me trompe pas, c'est bel et bien demain.
La tuerie de
Québec. Oui.
Alors, je pense que la ministre a compris, le gouvernement a compris, cette femme-là a besoin d'aide, elle est certainement une victime. Et on vient aussi d'ouvrir la porte aux autres. Il y en a d'autres qui vont maintenant se prévaloir de la même lecture, de la même définition de ce qu'est une victime.
C'est bien le 29 janvier 2017. Ça va faire 2 ans demain.
Ça va faire 2 ans demain. Alors, bonne nouvelle pour la communauté musulmane, mais bonne nouvelle en général pour tous ceux qui sont des victimes d'actes criminels. Soit que cette loi-là, s'ils veulent la modifier pour la rendre moins coûteuse... Bon,
mais faisons le débat. Faisons le débat.
Changer
la loi au Parlement. Changer la loi au Parlement.
C'est ça. Parlons-en.
Mais allez pas, mais allez pas resserrer.
Pousser la loi.
Ben
comme
là,
ça.
En privant des vraies victimes de l'indemnisation à laquelle elles ont droit. Parce que franchement, une mère de famille avec deux jeunes enfants, le mari se fait descendre.
Oui.
Et elle se retrouve devant rien. C'est une victime.
Puis en plus, dans son cas, ce qui rendait l'affaire encore plus odieuse, c'est que quand elle a entendu la nouvelle d'une tuerie à la mosquée, elle savait que son mari était parti à la mosquée. Alors, elle sautait dans un taxi avec le plus jeune de ses enfants, puis elle s'est rendue à la mosquée, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Puis elle est arrivée là, puis des voitures de police, puis elle a vu du sang, puis tout ça.
Ben oui.
Puis elle s'est mise à trembler, puis tout à coup, elle a appris qu'il était une des victimes. Puis là, elle a erré pendant toute la nuit, sachant plus où aller. OK, elle était peut-être pas là au moment où la balle est partie, mais je veux dire, elle était pas ben loin après, là.
On s'entend.
Et je trouve que il fallait réparer cette injustice et j'aime pas cette idée-là qu'on dit, ah, écoute, ça coûte franchement beaucoup plus cher que prévu. Prends le tournevis puis serre la vis un peu. On va lui trouver des définitions plus restreintes. Je m'excuse, mais ces lois-là, ça s'appuie sur la jurisprudence et la jurisprudence avait déjà démontré jusqu'à maintenant que des cas de victimes d'actes criminels de ce type-là s'étaient acceptés. Alors, pourquoi ils avaient changé d'idée? Pourquoi une telle mesquinerie? Est-ce qu'il en va de l'avenir de l'État du Québec? Pas du tout. Alors, maintenant que le gouvernement a fait preuve de générosité, que Sonia Lebel semble être celle qui est intervenue directement dans le dossier.
C'est bien ça.
Oui, hein? En tant que procureur général.
Puis Bellemare a fait le travail aussi, hein, disons-le.
Bellemare a fait le travail. Dans ce type de travail-là, Bellemare est un champion. Là.
Ah, vraiment.
C'est comme ça qu'il s'était retrouvé en politique. Il était moins fait pour la politique.
Oui, c'est vrai.
Mais Bellemare a fait un excellent travail. D'ailleurs, il a dit en entrevue aujourd'hui que s'il y a d'autres victimes dans le cas de la tuerie de la mosquée de Québec, il était prêt à gratuitement s'assurer qu'eux autres aussi vont être reconnus comme victimes. Alors, pro bono, comme ils disent dans le monde du droit, alors je pense qu'il y avait peut-être des gens qui vont s'en prévaloir, mais...
Oui, allez-y.
Allez-y, pourquoi
allez-y.
Pas.
Allez-y.
Allez-y, pourquoi pas. La brèche est là, on est prêt à vous entendre. Et je pense que ces gens-là méritent qu'on s'occupe d'eux. Cette dame-là veut se faire rembourser des soins psychologiques. Elle veut, enfin, puis aussi l'argent perdu pendant les 9 mois de fermeture de sa garderie parce qu'elle était dans une dépression et reconnue médicalement par des experts. Alors, écoute.
C'est sûr que alors être reconnu, ça veut dire notamment, il y a différentes sortes de catégories là,
mais
dans certains cas, et je pense que ce sera le cas de cette dame-là, elle aura droit à une rente là.
Oui,
de victimes d'actes criminels.
Oui, qui doit être évalué parce que, bon, à partir de critères objectifs, qu'on sait maintenant, c'est qu'elle va y avoir droit, puis que certainement la partie où l'argent qu'elle a perdu est de la fermeture de sa garderie à cause d'une dépression nerveuse, les soins auxquels elle a dû avoir recours pour elle-même et pour ses enfants, les soins psychologiques, vont être remboursés. Alors, à la veille de la commémoration, je l'ai
dit. Un beau geste, comme on dit.
C'est un très, très beau geste et c'est un geste qui honore le gouvernement actuel et qui nous honore tous, je veux dire.
Oui, collectivement, on a été... D'ailleurs, je dois te dire, parce que j'étais au Parlement à ce moment-là, à un moment donné, il y avait eu, je ne sais pas trop, une conférence de presse ou une annonce. Non, c'était Stéphanie Vallée, ministre de la Justice à ce moment-là, donc ministre responsable de l'IVAC, qui avait, dans un discours à l'Assemblée nationale, si je me rappelle bien, avait dit que le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est le plus généreux en Amérique.
Oui.
Il n'y a pas un État qui est plus généreux. Et puis moi, quand j'avais su ça, sais-tu quoi, j'en avais éprouvé un sentiment de fierté.
Moi
là.
Aussi, j'étais assez fier, mais Bellemare, aujourd'hui, il faudrait lui redemander, conteste ça, parce qu'il dit que quand ils arrivent à des chiffres comme ceux-là, c'est quand ils prennent la CAVAC.
Ah oui.
Puis l'IVAC, là, puis il y a un troisième organisme. Puis ils se comparent avec quelque chose qui n'est pas comparable. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer vraiment dans ce débat-là, mais c'est clair que nous avons un régime généreux d'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Moi, je vais te dire.
Et
là.
Ça, je trouve que c'est le genre de choses où je trouve que l'État agit bien. Moi, il y a quelques domaines, tu sais que je ne suis pas trop fort sur l'État qui se mêle de tout.
Oui, mais ça...
Quand ça vient à nos aînés, moi, je pense que c'est le rôle direct de l'État. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Quand ça vient aux victimes d'actes criminels, qui d'autre que l'État peut faire des indemnisations? Ça, je trouve que c'est une façon d'être généreux, à condition, évidemment, que le volet administratif de ces programmes-là ne se retrouve pas sous des pressions du type « serre la vis un peu ». Ça, on n'a pas besoin de serrer la vis.
Merci, Luc Lavoie.
Merci, Bernard.
On s'arrête et au retour, on va aller parler à M. le maire de Saint-Denis-de-Brompton, mes chers amis, parce que là, eux autres, ils ont trouvé, je ne sais pas comment, une façon de recycler 100% du verre sur leur territoire. Dans un instant.